Vous écoutez On lit pour vous.
Réservoir d'amour. Une chronique d'Aliénor Vinsotte, parue le 8 juillet 2026 dans Ombre et Lumière. C'est l'heure du dîner. Je suis attablée au milieu d'un groupe. Il y a du brouhaha, du mouvement, de l'agitation. Mon regard suit la main de mon interlocuteur qui va et vient autour de son visage. Je suis au stage organisé chaque année, début juillet, par l'Association nationale pour la langue française parlée complétée, ALPC. L'ambiance bruyante ne me gêne aucunement. Je prends conscience que je suis à l'aise. Ça jase pourtant dans tous les sens. La langue française parlée complétée, LFPC ou code LPC, m'apporte un confort supplémentaire, un soutien dans le bruit. Je ris aux blagues de contexte, je participe aux conversations avec fluidité, je réplique, je lance des boutades. À aucun moment, je ne suis en retrait, car je comprends tout. J'ai beau porter un appareil auditif et un implant cochléaire avec lesquels j'ai une bonne récupération auditive, mon cerveau n'entend pas naturellement. Il n'a pas la même capacité qu'une personne qui entend à trier les sons qu'il reçoit. La fatigue est donc plus présente, car j'effectue un gros travail d'analyse des informations auditives. Quel bonheur alors de pouvoir suivre les conversations sans effort, de rire immédiatement de la blague qui a été dite, et non après coup, après avoir eu le résumé. Les jeux de société deviennent de vrais lieux d'amusement. Mon réservoir de confiance augmente. Ce miracle a été opéré par un Américain, le docteur Cornett, qui, dans les années 1980, a inventé ce moyen de communication qui repose sur le même principe que le braille, la phonétique, mais accompagnée de la lecture labiale. Grâce à lui, s'est créée la rencontre entre deux mondes, celui des sourds, qui font le pas vers les entendants en apprenant à s'exprimer oralement, et celui des entendants, qui se mettent à la langue française parlée complétée pour aller vers les sourds. Un jour, enfant, j'étais au sanctuaire de Paray-le-Monial avec mon père, qui me parlait avec la LFPC. Un monsieur, nous voyant, s'approche de nous et, ému, se penche vers mon père. Vous lui remplissez son réservoir d'amour à cette petite. Il a si bien su résumer l'essentiel. Ce stage de langue française parlée complétée me plonge dans un de mes mondes à moi, fait de rencontres inestimables et d'amitiés qui durent, où chacun vient comme il est. C'est aussi un lieu d'échange entre divers milieux sociaux, avec des personnes venues d'horizons différents, des quatre coins de la France. Le seul point commun, leur soif de communiquer avec leurs proches sourds. Ces personnes, que je connais pour certaines depuis plus de 20 ans, m'édifient encore aujourd'hui par leur souci de l'autre, leur générosité, leur largeur d'âme et leur sens de l'accueil. J'y retrouve la présence invisible du Christ. Oui, vraiment, l'esprit souffle où il veut. C'était « Réservoir d'amour », une chronique d'Aliénor Vinsotte, parue le 8 juillet 2026 dans Ombre et Lumière.
Ces auteurs qui tiennent la route. Robert E. Howard. Un texte de Francis Archambault, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Barbarie versus civilisation. La civilisation n'est qu'une brève parenthèse entre deux âges de barbarie. Cette phrase aux touches spengleriennes résume toute l'idéologie de Robert E. Howard. Écrivain aujourd'hui considéré comme culte, il est un pionnier du genre fantastique grâce à son personnage de Conan le barbare. Il a aussi marqué le milieu des pulps, ces revues plus populaires que littéraires qui étaient imprimées sur du papier de mauvaise qualité, wood pulp. Bien que maîtrisant surtout la littérature fantastique, il s'est aussi essayé à la poésie, au genre policier et historique, ainsi qu'au récit sportif. La barbarie, thème central de son œuvre, s'immisce toujours, d'une façon ou d'une autre, dans tous ses écrits. Notre homme, fils d'un médecin itinérant, naquit au Texas en 1906, où il vécut un début de vie nomade. La famille s'installa éventuellement dans la ville de Cross Plains, une de ces « boomstowns » où la découverte du pétrole attira plusieurs travailleurs, immigrants et escrocs. En ce début de siècle, Le Texas était encore un endroit violent de la frontière où les anciens se remémoraient les raids des tribus Comanches et les règlements de compte devant les saloons. Howard fut marqué par cette violence à la fois sociale et criminelle, où les accidents de travail étaient fréquents et les rues peu fréquentables. Bien que cet environnement fût peu enclin à la vie de l'esprit, la mère du jeune Texan le biberonna précocement de littérature épique, récits homériques, théâtre shakespearien, aventures chevaleresques, ainsi que littérature chrétienne. Très doué, il voulut rapidement faire de l'écriture son métier. Publié pour la première fois en 1925 dans Weird Tales, ce magazine de fantastique et d'horreur où H.P. Lovecraft, le maître de l'horreur cosmique, est aussi publié, il dut cependant attendre 1928 pour avoir un véritable succès populaire. Ce dernier eut un nom, Solomon Kane, chez le Livre de poche, 2019. Fanatique religieux d'une époque gothique fantasmée, ce protagoniste consacre sa vie à purger le mal des différentes contrées qu'il visite. S'imposant un mode de vie puritain, il pardonne les péchés mineurs des autres dès lors qu'ils ne nuisent qu'à ceux qui les commettent. Il s'autorise cependant, tel un archange, la peine capitale avec les vilains. Autres vampires, démons et succubes n'ont comme dernier souvenir que le visage blanchâtre de l'austère pourfendeur du mal. Toute la complexité du brave réside dans le fait qu'il poursuit une quête divine tout en s'autorisant le meurtre, le péché des péchés. Son nom est en lui-même un paradoxe. Il évoque à la fois Salomon, le roi juste d'Israël, et Caïn, premier meurtrier de la Bible. Parallèlement à l'écriture de Solomon Kane, Howard diversifie ses histoires afin de toucher plusieurs marchés et de continuer à vivre de sa plume, ou plutôt de sa machine à écrire. Par exemple, celle du marin Steve Costigan, boxeur insatiable toujours à la recherche d'adversaires, touche un grand public et nécessite peu de recherche, car l'écrivain est lui-même un boxeur amateur. Certaines de ses fictions d'horreur, comme Pigeons from Hell, qualifiée par Stephen King de l'une des meilleures histoires d'horreur de notre siècle, lui forgeront aussi une bonne base d'admirateurs. Cependant, un des grands regrets de la vie du Texan est de ne pas avoir réussi à vivre de ses récits historiques qu'il adorait, comme Le Seigneur de Samarcande. Chez le Livre de poche, 2020, il n'existe pas de travail littéraire qui soit à mes yeux plus jubilatoire que de réécrire l'histoire sous une forme romanesque, a-t-il affirmé. Stimulé par sa correspondance avec Lovecraft, où le maître de Providence lui explique la supériorité de la civilisation, Howard, pessimiste et habitant d'un Far West encore sauvage, développe son argumentaire pour la prédominance de la barbarie. Celui-ci se construisit tout au long de son chef-d'œuvre « Conan » chez le Livre de poche 2019. Souvent associé au rôle d'Arnold Schwarzenegger dans le film de 1982, le personnage de Conan est toutefois beaucoup plus intéressant. Il s'insère dans un monde au lore complexe bâti avant celui que proposera Tolkien quelques années plus tard. Ce monde, le continent d'Iboria, s'inscrit dans l'âge iboréen, période fictive se déroulant entre 16 000 et 10 000 avant Jésus-Christ. Cet univers peut être qualifié d'antédiluvien, c'est-à-dire ce qui précède le déluge biblique où, selon la mythologie howardienne, de riches civilisations florissaient. C'est donc dans ce monde peuplé de différents royaumes que de vraies logiques géopolitiques et historiques sont en place au moment de l'arrivée de notre anti-héros. Conan, grand gaillard aux muscles félins, est un barbare, mais pas de ces bons sauvages que l'on trouve chez Rousseau. Sans peur depuis qu'il a conquis la sienne, Conan déclenche la brutalité et la mort partout où il passe. Sans véritable but, il erre au rythme de ses intérêts du moment en adoptant les rôles qu'on lui offre. Dire qu'il est sans morale serait faux. Il en a une, la sienne. Être son ennemi est mortel. Mais il risquera sa vie pour les gens qu'il considère comme des membres de sa meute. Robert E. Howard ne survivra malheureusement pas à son héros, car en 1936, il se suicida à seulement 30 ans. Il n'a donc jamais eu conscience du nombre d'adaptations en bande dessinée, en film, en série télévisée ou en jeu vidéo qui ont découlé de Conan, se révélant à lui seul être un patrimoine fictionnel immense qui changea à tout jamais la pop culture. L'inévitable décadence qui constitue le centre de son œuvre nous rappelle cependant que, quand tout tombe, tout recommence. C'était « Ces auteurs qui tiennent la route », Robert E. Howard, un texte de Francis Archambault, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
L'intelligence inaccessible? Un texte de Gabrielle Anctil, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science. ChatGPT est-il intelligent? La question fait débat depuis son arrivée dans nos vies en 2022. Si les capacités génératives de l'outil ont beaucoup impressionné à sa sortie, on lui reproche désormais d'être une simple machine qui régurgite des mots suivant une méthode statistique. L'émerveillement face à ce type d'intelligence artificielle, IA, laisse place à une forme de banalité. Après tout, l'IA, c'est juste un ordinateur. Cette évolution des perceptions suit ce qu'on appelle le théorème de Tesler. Formulé par l'informaticien Larry Tesler, connu pour avoir inventé le copier-coller, il stipule que l'intelligence est ce que les machines n'ont pas encore accompli. Selon son auteur, bien des gens considèrent que l'intelligence humaine est unique. Si une machine parvient à accomplir une tâche donnée, c'est que cela ne doit pas être de l'intelligence. Ce théorème est fréquemment appliqué à l'IA. Si on le prend à rebours, il signifie que ce que nous considérons comme de l'IA est tout ce qu'un ordinateur n'est pas encore capable d'accomplir. Chaque fois qu'un nouveau jalon est atteint, il n'est pas rare de voir des voix s'élever pour arguer que la tâche n'est en réalité pas vraiment de l'intelligence. C'est ce qui s'est produit lorsque le superordinateur Deep Blue a remporté une partie d'échecs contre le champion du monde Garry Kasparov en 1997. « Je n'ai pas peur de dire que j'ai peur », lançait alors Kasparov. L'opinion publique frémissait. Était-ce la fin de l'intelligence humaine? Quelques jours plus tard, Drew McDermott, professeur d'informatique à l'université Yale, publiait une lettre ouverte au ton bien différent dans le New York Times. Deep Blue est inintelligent car il est trop limité, affirmait-il, citant des collègues qui se précipitaient pour affirmer que cette victoire n'aurait aucune incidence sur l'avenir de l'intelligence artificielle, une réaction typique du théorème de Tesler. Puisque la machine y était parvenue, ce n'était clairement pas de l'intelligence. L'histoire nous a prouvé que, à la suite de cet événement, la ligne d'arrivée a constamment reculé. Une victoire aux échecs a cessé d'être considérée comme un marqueur de l'intelligence de la machine. Surtout, on ne parle plus d'IA pour décrire un système capable de gagner aux échecs. C'est de l'informatique, tout simplement. La même chose se produit-elle en ce moment avec l'IA générative? Il est fort probable que nous cessions demain d'utiliser le mot « intelligence » pour parler de ChatGPT et ses consorts. Ils deviendront probablement des chatbots, tout ce qu'il y a de plus banal. C'était « L'intelligence inaccessible », un texte de Gabrielle Anctil, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science.
Quand des pentecôtistes convoitent le pouvoir. Une entrevue réalisée par Yves Casgrain, parue le 25 juin 2026, dans Présence, Information religieuse. Dans son nouvel ouvrage publié aux éditions Labor et Fides, Chrétien en quête de puissance, présence globale et politique des pentecôtistes, André Gagné, professeur titulaire et directeur du département de théologie de l'Université Concordia à Montréal, se penche sur l'instrumentalisation des dons de l'esprit et des charismes en faveur de Donald Trump et d'autres dirigeants politiques. Rencontré à son retour d'une longue tournée promotionnelle en Europe, André Gagné, ancien pasteur pentecôtiste, précise d'emblée que son livre ne se veut pas une vendetta dirigée contre eux. Le but de mon livre est d'expliquer que le mouvement pentecôtiste est en pleine croissance et que cela va avoir des incidences sur le plan social et politique. Nous le constatons aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Dans son livre, André Gagné souligne qu'il y a sur la planète environ 676 millions de pentecôtistes. On estime qu'ils dépasseront le milliard en 2075. Ils sont 63 millions aux États-Unis. Cette mouvance chrétienne est très diversifiée. Les différentes églises et organisations qui la composent ne possèdent pas toutes la même interprétation des textes bibliques. Cependant, elles accordent toutes la même importance à l'Esprit-Saint et à son pouvoir transformateur chez les croyants. André Gagné explique d'ailleurs que le titre de son livre, Chrétien en quête de puissance, fait directement référence au verset 8 des Actes des apôtres. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour certains pentecôtistes, cette puissance spirituelle doit être utilisée à des fins politiques au profit du royaume de Dieu sur terre, explique l'expert. Cette interprétation ne date pas d'hier et a été mise en application dans certains pays en Afrique et en Amérique du Sud. Un massacre de démons. En 1982, au Guatemala, le général Efrén Ríos Montt, membre de l'Église El Verbo, une église évangélique de type pentecôtiste, prend le pouvoir par la force. Dès le début de sa présidence, il s'adresse à la nation par l'entremise d'allocutions télévisées hebdomadaires aux allures de sermons dans lesquelles il s'en prend au communisme tout en critiquant fortement l'Église catholique. Avec l'aide de l'armée, Ríos Montt décime les opposants, violents ou pacifiques. En quelques mois, rappelle André Gagné, entre 3 et 10 000 personnes sont mortes, dont de nombreux autochtones. Rios Montt a d'ailleurs été condamné pour génocide et crime contre l'humanité. Ce qui n'a pas empêché des chrétiens évangéliques et pentecôtistes d'acclamer Rios Montt. Dans son livre, André Gagné cite un pasteur de l'Église El Verbo qui a affirmé que l'armée ne massacre pas les Indiens, elle massacre des démons. Et les Indiens sont possédés par des démons, ce sont des communistes. Nous considérons le frère Efren Rios Montt comme le roi David de l'Ancien Testament. Le régime de Rios, qui était appuyé par des évangélistes et des pentecôtistes américains, dont le télévangéliste Pat Robertson, s'est effondré à peine un an après sa prise de pouvoir. Nous sommes ici en présence d'un combat spirituel qui a complètement dérapé. C'est parfois la conséquence du mariage entre le politique et le religieux, avance le professeur Gagné. Paula White Cain. Aux États-Unis, même si la violence institutionnalisée n'est pas à l'ordre du jour, tout un système politico-religieux est en train de se constituer. On a mis en place des personnes qui ont une vision hégémonique, qui est essentiellement une vision chrétienne. La plus médiatisée est sans nul doute Paula White Cain, chrétienne évangélique. La conseillère spirituelle de Donald Trump a organisé, après sa défaite contre l'ancien président Biden, des réunions de prière pour la nation, lors desquelles elle traitait les opposants de Trump d'ennemis de Dieu. C'est elle qui a été nommée responsable du Bureau de la foi mis sur pied par Trump afin de lutter contre ce qu'il considère être des discriminations antichrétiennes. Pour ce faire, le Bureau de la foi et le département de la justice vont s'associer afin de s'en prendre à des événements, des actions considérées comme antichrétiennes. L'ancien pasteur pentecôtiste n'a rien contre les charismes et les dons spirituels, tels que la prophétie ou encore la notion de combat spirituel. Il n'y a absolument rien de mal avec cela. Lorsque l'on se sert de ces pratiques-là et de ces croyances pour subvertir la démocratie, c'est là que c'est mal. On ne peut pas se servir du combat spirituel pour démoniser ses adversaires politiques en affirmant qu'ils sont possédés par un esprit démoniaque. Ce faisant, on atteint le cœur du débat démocratique, affirme-t-il. Cette instrumentalisation du religieux est très dangereuse. Cela va à l'encontre de l'esprit démocratique. Cela va également contre l'idée d'aimer son prochain, d'être accueillant. Être chrétien, c'est d'être capable de subir les contrariétés aussi. Jésus dit que si quelqu'un te frappe la joue droite, tends-lui ta joue gauche. Il ne dit pas de lui frapper la joue gauche, lance André Gagné. Opposant pentecôtiste. Pourtant, certains chrétiens évangéliques et pentecôtistes émettent de plus en plus ouvertement des doutes sur le fait que Trump est l'élu de Dieu. Ils se demandent s'ils ont élu l'Antéchrist. D'autres le comparent à la bête à sept têtes de l'Apocalypse. Il y a également le mouvement Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice qui a publié une déclaration intitulée Pentecostals Against Trumpism. Il y a donc des élans de résistance de la part de pentecôtistes qui voient dans ce mariage politico-religieux une attaque profonde à leurs convictions spirituelles. Ils ne veulent en aucune façon s'associer à cela. Cela nous donne un peu d'espoir, avance André Gagné. Néanmoins, cette opposition de la part de pentecôtistes est minoritaire et très souvent passée sous silence par les médias, y compris américains. Les analyses des médias sont souvent caricaturales, car ils ne saisissent pas les nuances entre les dénominations. Le professeur Gagné constate que, contrairement en Europe, au Québec, c'est plus difficile d'intéresser un média grand public. Il passe régulièrement à côté de la notion du religieux, qui joue pourtant un rôle capital dans beaucoup de décisions politiques intérieures et aussi sur le plan géopolitique. C'était « Quand des pentecôtistes convoitent le pouvoir », une entrevue réalisée par Yves Casgrain, parue le 25 juin 2026, dans Présence, information religieuse.
L'avocate et militante Elisa Roja publie « Pour mourir, tapez 1 », un texte de Guillemette de Préval, paru le 29 juin 2026 dans Ombre et Lumière. L'essai de l'avocate franco-chilienne démonte un à un les arguments qui poussent en faveur d'une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté en France. Un texte court et accessible. Avocate au barreau de Paris, militante pour les droits des personnes handicapées, Elisa Roja n'a pas la langue dans sa poche. Dans cet essai, elle démonte un à un les arguments qui poussent en faveur d'une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté en France. Sa vision anticapitaliste, très marquée à gauche, détonne par rapport à celle des soignants ou de la droite de l'échiquier politique. Lors d'une dédicace parisienne, Elisa Roja insistait : si c'est un droit, alors on voudra naturellement qu'il soit possible pour un maximum de personnes. C'est l'essence d'un droit. Soulignant par là que, même si des conditions strictes existaient aujourd'hui, elles seraient irrémédiablement élargies à long terme. Les courts chapitres et son écriture percutante rendent l'essai très accessible. Extrait du livre. Les personnes malades et handicapées vivent avec cette conscience qu'elles représentent tout ce qui terrifie la société, tout ce qu'elles rejettent. Elles savent, pour certaines depuis leur naissance, qu'elles doivent justifier chaque jour de leur existence, car cette existence même est une anomalie indésirable. N'est-elle pas un appel insupportable à toutes les personnes valides de ce qui pourrait leur arriver ? Si elles tombaient malades, devenaient handicapées ou dépendantes ? L'une des phrases les plus fréquemment entendues est d'ailleurs la suivante : « Je ne sais pas comment tu fais. À ta place, je préférerais être mort. » N'est-ce pas là un cuisant rappel du peu de valeur accordée à nos vies ? Info. Pour mourir, tapez 1. Par Elisa Roja, édition du Détour, 106 pages. C'était l'avocate et militante Elisa Roja publie « Pour mourir, tapez 1 ». Un texte de Guillemette de Préval, paru le 29 juin 2026 dans Ombre et Lumière.